Bon voilà, mes préparatifs sont terminés. Donc bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs. C'est vraiment, je suis super content en fait de pouvoir vous partager la parole aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, comme on a pu le lire, le texte qu'on va étudier aujourd'hui, c'est 1 Timothée au chapitre 1, verset 12 à 20. Et le thème qu'on va étudier, qu'on va essayer de comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est le combat de la foi au moyen de la grâce. Avant de commencer, je vais encore remettre une fois ce moment dans les mains de notre Seigneur. Père, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est vivante. On veut te remercier parce qu'elle a donné vie en nous. Et à travers ta parole, Seigneur, on peut avoir une relation avec toi, Seigneur. Père, on veut s'humilier devant toi, plier le genou, Seigneur, pour demander que ton esprit vienne nous remplir. Je te demande, Seigneur, que ton esprit vienne m'investir, Seigneur, de ta sagesse, de ton intelligence, pour qu'on puisse ensemble comprendre ce que tu viens de nous dire, Seigneur, les vérités qui ont été écrites hier, Seigneur, qui sont encore une réalité pour nous aujourd'hui, Seigneur, on veut les embrasser, on veut les vivre à travers ton esprit. Père, utilise-nous, Seigneur, touche nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur, à travers ces textes, et que vraiment, tu nous utilises, Seigneur, pour l'édification de ton royaume. Je te prie en ce nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, en ce dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, je veux vous parler de combat. Ça paraît assez logique, je pense, pour vous. Et quand on parle de combat, je pense que, très sincèrement, je suis peut-être la personne la moins bien placée pour parler de combat. Mes seules expériences de combat relèvent de l'école primaire, où je me battais avec mes copains. En fait, je me battais, mais dès que les gens essayaient de me taper, j'allais me cacher, en fait, parce que j'avais des copains plus forts. Donc, en fait, j'étais juste celui qui mettait les coups et qui se partait. J'ai eu 5 séances de boxe à l'ESCP. J'ai arrêté, comme mon père avec la boxe thaï. Et du coup, je suis pas forcément bien placé pour parler de combat physique. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ce qui nous intéresse n'est pas le combat physique, mais c'est un combat bien plus important et bien plus crucial pour nous en tant que chrétiens. Notre combat dans notre vie chrétienne. Et ça nous parle à tous et à toutes dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, est-ce que ça marche? Bon, Denis, tu vas être mon... Ah, ça marche. Ok, c'est toi qui l'as fait ou c'est... Ouais, c'est... Non, ça marche pas en fait. Bon, Denis, tu vas le faire alors. On va travailler ensemble. Ok. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Bon, je vais peut-être... Plein de choses à faire hein, quand on prêche. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, le combat de la foi au moyen de la grâce. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Denis? Donc voilà le plan qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Tu peux tout défiler, s'il te plaît? Voilà, super, merci. Premièrement, on va voir exactement quelles sont les origines et les enjeux du combat. Où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on est, en tant que chrétien, amené dans ce combat? Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est quoi exactement le centre même de ce combat? Deuxièmement, dans une deuxième partie, on va voir la finalité du combat. En fait, quel est le but de ce combat? Ici, on parle de combat, Paul nous parle de combat, et quel est le but réellement pour nous en tant que chrétiens de notre vie? Troisièmement, on va voir les armes du combat. Quelles sont les armes qui nous sont données aujourd'hui en tant que chrétiens? Donc en gros, pourquoi est-ce qu'il y a un combat? Quel est le but, finalité du combat? Comment est-ce qu'on est amené à combattre? Donc c'est les trois choses qu'on va voir aujourd'hui sur lesquelles on va s'intéresser. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis. Je fais ça avec lui. Voilà. Donc, on va voir dans un premier temps les origines du combat et les enjeux du combat. J'ai découpé ça donc du verset 12 au verset 14. Donc, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans un ministère, dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, on a lancé l'étude de l'épître de Paul au Timothée, qui a suivi notre étude d'Éphésiens. Et du coup, juste en termes de contexte, rappelez-vous bien que ces deux lettres de Paul en fait sont liées. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul était allé à Éphèse. On regarde dans Actes chapitre 19, il s'était établi à Éphèse. Et ce qu'il a fait à Éphèse était assez remarquable, en ce sens que quand il est arrivé à Éphèse, il est resté près de 2 ans là-bas. Près de 2 ans pour établir l'église d'Éphèse. Pendant près de 2 ans, il y avait des gens qui venaient et qui prenaient des cours auprès de Paul. Pendant 2 ans, en fait, Paul avait établi une sorte de discipulat auprès de personnes qui prenaient des cours. Et on peut voir dans Actes 19 et début d'Actes 20 que ces personnes-là, après, ont commencé à évangéliser dans toute la région, parce que c'est aussi l'enseignement de Paul. Et il nous est dit dans Acte 20 que toute l'Asie mineure avait entendu parler de Dieu, parce que Paul avait fait son enseignement là. Donc, Timothée, c'est pas un bleu, c'est pas un novice dans la foi, il a reçu cet enseignement auprès de Paul. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il y avait 3 grands problèmes dans l'église d'Éphèse, justement, là où Timothée était. Première chose, problème de doctrine. On l'a vu la semaine dernière. Beaucoup de faux docteurs, beaucoup de d'évangiles édulcorés, beaucoup de choses mauvaises. Il y avait une deuxième chose qui était le matérialisme, qui était ambiant aussi dans l'église d'Éphèse. Troisième chose, un besoin de conducteurs qualifiés. Donc souvent, on va rechercher dans 1 Timothée pour voir aussi les critères des pasteurs. Donc ça, c'est un peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est Timothée? Quel est le contexte dans lequel il est Timothée? Et au jour d'aujourd'hui, enfin, au jour d'aujourd'hui, pour la situation de Timothée, il était dans un contexte aussi qui nous est décrit à partir du verset 13. Ici, Paul nous dit qu'il était blasphémateur, persécuteur, homme violent. Et je pense, frères et sœurs, que ces caractéristiques-là, blasphémateur, persécuteur, homme violent, c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est quelque chose qu'on connaît tous dans le monde où on est aujourd'hui. Je pense que c'est la norme en tant que chrétien. Nous vivons tous dans un monde blasphémateur, persécuteur et violent. Pourquoi? Parce que nous aussi, au départ, avant de connaître Christ, nous étions blasphémateurs, persécuteurs et violents. C'est notre nature. La nature du monde qui nous entoure reflète notre nature aussi d'homme, notre condition pécheresse. Blasphémateur, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec quelqu'un. J'étais près de la gare de Logne et je commençais à lui parler de Dieu. Il me dit, oui, vous les chrétiens, enfin, ou même vous, ceux qui ont les religions, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien parce que ce que vous dites, c'est que vous essayez d'endoctriner les gens, vous les forcez à faire des choses, vous avez votre pensée et vous voulez que on vive et on voit les choses comme vous, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Le Dieu que vous adorez, c'est quelque chose de faux. Et je pense que c'est un peu la pensée ambiante de ce monde. Le monde n'a pas peur de blasphémer, le monde n'a pas peur de dire que ce en quoi on croit est faux. Et les gens ne se privent surtout pas de faire ça. Je me rappelle, quand j'étais en stage, je préparais le PowerPoint pour un culte. Et, je sais pas très bien préparer le PowerPoint pendant qu'on travaille. Et je disais le PowerPoint, et à ce moment-là, j'ai des collègues qui m'ont vu. Et en plus, je me souviens très bien, les paroles c'était « Oh, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer ». C'était ce chant-là, vous voyez tous ces quels chants. Et plusieurs personnes m'ont vu, et ils m'ont commencé à me demander « Ah, mais tu fais quoi ?» et tout. Ah, bah je prépare, j'ai un peu de temps libre. Je prépare un PowerPoint pour le culte. Et des gens derrière moi, certaines personnes ont fait, ils ont commencé à rigoler, mais comment tu peux chanter, oh je t'adore, tu es la raison pour laquelle je vis, mais c'est ringard, c'est dépassé, comment est-ce que tu peux dire ça? Et ils disaient plutôt ça sur le ton de la rigolade. Et j'ai un ami, qui était à côté de moi, en fait, c'est celui avec qui je travaillais souvent, et il m'a dit, en gros, respectez-le par rapport à sa foi. Il est engagé, il a quelque chose à, enfin, il a des convictions, respectez-le. Et je pense que, voilà, blasphémateur, persécuteur et homme violent, on peut voir même la persécution, que ce soit en Syrie, que ce soit même en France, dans les camps de Calais, la persécution est ambiante. Tout le monde dans lequel nous vivons est représenté là, est représenté dans nous, C'est-à-dire notre caractère et tous les hommes qui nous entourent sont de la sorte. Paul également. Paul lui-même le dit, hein, je suis persécuteur, homme violent, et j'agissais par ignorance et incrédulité. Frères et sœurs, c'est là aussi, je pense, qu'il est important de se rendre compte, c'est que les hommes et les gens qui nous entourent sont ignorants et incrédules. Ignorants parce que ils ne connaissent pas la parole de Dieu, et incrédules en même temps parce qu'ils ne veulent pas croire en la parole de Dieu. Même lorsque nous apportons la parole de Dieu, ils ne veulent pas la croire. Donc voilà, je vous ai dressé un portrait assez sombre, en fait, de l'humanité et même de notre personne. Et on voit la grâce de notre Seigneur à surabonder avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Je pense que beaucoup d'entre vous, ou si ce n'est la majorité des personnes ici présentes, sont chrétiennes. Et même si, de la même manière que Paul, nous étions blasphémateurs, persécuteurs, hommes violents, même si nous étions incrédules, ignorants, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous a permis au jour d'aujourd'hui peut-être d'être assis ici, d'avoir une relation avec Dieu et de pouvoir vivre notre vie chrétienne et vivre ce combat qu'on va voir. La grâce de Dieu a surabondé. Malgré notre condition, malgré le monde, malgré notre péché, la grâce de Dieu a surabondé. Et on peut se demander en fait, dans quel type de combat est-ce qu'on est amené à vivre ? Est-ce que c'est un combat où notre personne va être engagée, notre intellect va être engagé, nos efforts vont être engagés. Petit cours d'étymologie. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis. Voilà. Le mot grec pour la guerre, en fait, c'est stratéo. Stratéo, c'est le mot qui est désigné en grec pour dire faire la guerre. Et un autre synonyme, c'est stratéia, qui est le combat, en fait. Le combat qui est utilisé dans 1 Timothée, dans ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc stratéia est le mot même de racine stratéo, utilisé pour le mot combat, en fait, pour la guerre. Et stratéo, je pense que vous le voyez, c'est aussi le mot qu'on utilise pour la stratégie. Stratégie, en fait, ça dérive du mot, de ce mot-là. Donc quand on fait la guerre et quand on fait le combat, c'est pas de n'importe quelle manière. Il y a des techniques pour faire le combat. Et stratégia, le combat, en fait, c'est quelque chose qui est sur le long terme aussi. C'est pas juste du one shot. C'est quelque chose qu'on va être amené à faire sur le long terme. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui est en jeu, en fait? D'accord, on combat. D'accord, peut-être qu'il y a des techniques, mais qu'est-ce qui est réellement attaqué? Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas une guerre au sens propre, comme nous l'entendons, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Nous sommes en guerre contre des choses spirituelles, contre Satan, contre les armées de Satan. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, que c'est une guerre spirituelle qui nous attend. Et qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est attaqué? 1 Jean chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ce qui est en jeu, en fait, c'est fin du verset 4, hein, c'est notre foi. Satan et ses forces n'attaquent qu'une seule chose, au final. C'est notre foi. Notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu est attaquée à tout moment. Notre confiance en Dieu, à travers tout ce qu'on vit, est attaquée. Et les ruses de Satan, comme on parle de technique, les ruses de Satan sont vieilles comme le monde, mais marchent à tous les coups, marchent souvent, et marchent toujours sur nous en tant qu'êtres humains. Ces deux techniques sont très simples. Le mensonge et l'orgueil. Mensonge et orgueil sont les deux choses qui font le plus de mal à notre relation et à notre foi en Dieu. On réfléchit, regardez Adam et Ève. Adam et Ève, les premiers hommes, les premiers êtres humains sur cette terre, qu'est-ce qui s'est passé? Le mensonge de Satan, mange de ce fruit et tu deviendras l'égal de Dieu. L'orgueil, l'homme était là et a dit oui, je veux devenir comme Dieu, je veux que quand je mange, en fait, ça, je puisse devenir l'égal de Dieu. Et le mensonge de Satan et l'orgueil, et notre orgueil, en fait, sont vraiment les deux choses qui sont utilisées pour que nous puissions perdre confiance en Dieu, pour que nous puissions mettre notre foi autre part qu'en Dieu. Le mensonge aussi peut nous amener à combattre de mauvais combats. Je pense que vous pouvez voir vous avez sûrement des amis, des collègues, des connaissances qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont peut-être une autre religion. Moi, personnellement, j'ai mes cousins qui sont mormons. Ils combattent leur combat aussi. Ils ont un combat aussi à mener. Mais le problème, c'est que le combat, c'est un mauvais combat. On peut se tromper de combat. On peut combattre toute sa vie. Mais la question, c'est est-ce qu'on combat le bon combat? Ou est-ce que tu te perds à faire des efforts et à combattre pour autre chose? L'un des moyens aussi dans le mensonge, je pense, est l'une des grandes victoires de Satan quand il nous parle et quand il nous convainc, c'est au moment de péché. Je pense que tous vous avez déjà fait l'expérience de péché, c'est que quand on pêche, c'est pas forcément quelque chose de très très, on n'est pas fier de pécher. Je me rappelle, moi, avant que mes parents partent, en fait, ils sont à Marseille pendant 3 semaines, je suis tout seul, et avant que mes parents partent, en fait, j'ai eu une assez vive discussion avec mon père pour des broutilles. Ça a empiré. Et au moment, en fait, où, en plus, ils allaient partir. Donc, et au moment où j'ai terminé, en fait, je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment mal par rapport à ce que j'avais fait parce que je savais que c'était pas quelque chose de bien. Même si, entre guillemets, je me dis, ouais, j'ai raison et tout, je sais, c'est quoi. Mais je sais que c'était pas juste ce que j'ai fait. Que j'avais manqué de respect à mon père. Et pendant toute cette journée, en fait, je me disais, tout ce qui est passer du temps avec Dieu, en fait, pour moi, c'était, je fais non. Enfin, j'étais encore peut-être sous la colère et je me disais non, mais j'ai pas, ça sert à rien. Dieu, ça sert à rien que je revienne vers toi, etc. Et je pense que l'un des plus grands, plus grandes forces de Satan, c'est de venir et de nous implanter ce mensonge, en fait. Que des fois, peut-être que nous sommes pas assez dignes de revenir vers Dieu quand nous péchons. Peut-être qu'il y a cette honte qui est en nous et qui nous écarte de Dieu. Et le fait de penser ça, c'est vraiment l'une des plus grandes victoires de Satan, de dire « Écarte-toi de la grâce de Dieu. Écarte-toi de l'amour de Dieu. Et reste à l'écart de moi. Reste à l'écart de Dieu. Reste dans ton péché. » Donc voilà, on a vu dans cette première partie que nous étions dans un monde pécheur, un monde qui nous demande de combattre par rapport à notre foi, par rapport à notre confiance en Dieu. Que Satan utilisait des ruses pour remettre en cause notre foi. Et maintenant, nous allons voir dans une deuxième partie le but, la finalité du combat. Donc, tu peux passer. Alors, donc à partir du verset 15, on a encore une fois une réaffirmation de la grâce de Christ. Enfin, la grâce de Dieu à travers le sacrifice de Christ. Christ n'est pas venu sauver. Christ n'est pas venu dans le monde pour sauver des hommes parfaits, mais Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, comme vous et moi. Christ, si nous avons une relation avec Christ, Christ est venu nous sauver, nous, parce que nous sommes pécheurs. Et je pense que l'un des versets que nous connaissons le plus au monde est Jean 3,16. Et déjà, à partir de là, on peut en tirer une finalité, en fait. On sait déjà comment ça va se passer. Notre combat, ici sur Terre, on sait exactement qu'est-ce qui va se passer. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver des pécheurs. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Frères et sœurs, la finalité, on sait que la fin, en fait, quand on place notre confiance en Jésus-Christ, c'est la fin. C'est la vie éternelle. Nous avons le salut en Christ. Nous avons la vie éternelle. Cette vie éternelle est peut-être loin pour vous. Vous dites, mais Satan, c'est quoi la vie éternelle? Ce sera quand je mourrai, quand j'irai voir Christ, etc. Mais dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est pas seulement quelque chose que j'aurai quand je mourrai et que je me serai fait juger. La vie éternelle, c'est que je connaisse Dieu chaque jour, à chaque instant. C'est là aussi où je peux vivre la vie éternelle. De la même manière qu'on utilise aussi l'analogie du royaume de Dieu, où on dit le royaume de Dieu aussi, ce sera là où on ira voir le Christ, là où on vivra avec Christ dans la cité céleste, le royaume de Dieu aussi, aujourd'hui, est en nous, parce que Dieu vient habiter en nous, au moment où on accepte Jésus-Christ. Donc ça, c'est une première finalité, on va dire un premier objectif que Dieu nous donne. Frères et sœurs, vivons notre vie éternelle au jour d'aujourd'hui, vivons cette relation que Dieu nous donne, cette grâce. Cette grâce, c'est pas seulement quand j'ai cru en Dieu et que j'ai été sauvé, cette grâce, c'est chaque jour, quand je reviens vers Dieu, quand Dieu me permet de goûter à sa grâce. C'est pas seulement un événement one shot, c'est aussi, Dieu nous permet aussi chaque jour de goûter à sa grâce, à travers notre relation avec lui, à travers nos fautes, nos manquements, notre repentance, Dieu nous permet aussi de goûter à sa grâce chaque jour. Il y a une deuxième chose aussi, qui est très importante quand on regarde, verset 16, « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. » Donc là, on a vu pour la vie éternelle, et là, on va plus s'intéresser à que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui. On a vu la finalité du combat, c'est pour connaître Dieu, Jean 17,3, que nous nous approchons de lui pour sa grâce. Mais l'une des raisons aussi principales, c'est que nous puissions servir d'exemple. Ça, c'est excessivement important. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Denis ? Frères et sœurs, je pense que si Dieu nous a donné cette vie sur terre, et si nous sommes des chrétiens, ce n'est pas juste pour bénéficier de la grâce, dire « ouais, je suis sauvé », et vivre notre vie de la même manière. Dieu attend des choses beaucoup plus grandes pour nous. Dieu attend des choses parce qu'il va nous utiliser, parce qu'il va nous donner sa puissance. Dieu attend des choses plus grandes pour nous. Ici, bon voilà, j'ai pu voir Paul, Timothée, Éphèse. Il faut savoir que quand Paul a écrit cette lettre à Timothée, il y avait un but précis aussi. Comme je l'ai dit, Timothée, il a été formé par Paul pendant 2 ans. Et quand il l'écrit, en fait, Timothée va devoir faire quelque chose. Timothée va devoir aller voir les responsables de l'église d'Éphèse et il va devoir les confronter. Il va devoir leur dire, tout ce que vous dites sur Jésus-Christ, sur l'évangile, c'est faux. Vous êtes là en train de dire, en train de blasphémer. Vous êtes là en train de dire n'importe quoi. C'est comme si moi j'allais dire voir pasteur, et je lui disais, mais Seigneur, pasteur, en fait, ce que tu dis, c'est faux. Timothée est jeune, hein. Les responsables sont tous super âgés. Et Timothée va devoir les confronter. C'est aussi l'une des principales raisons que Paul écrit ça à Timothée, c'est pour l'encourager, pour lui dire, combat le bon combat, fortifie-toi, prends courage. Et je pense que on en a discuté aujourd'hui aussi lors du groupe de mecs d'Epic. Je pense que nous aussi, nous sommes appelés aussi à être des exemples, là où Dieu nous place. Dans l'Église, dans notre vie, il n'y a pas juste des leaders ou des diacres ou des pasteurs qui sont appelés à vivre une vie sainte et à être des exemples. Là où Dieu nous place, dans chacun de nos vies, auprès de notre famille, auprès de notre service à l'église ou pas, Dieu aussi nous appelle à être des exemples. Paul était l'exemple de Timothée. Christ était l'exemple de Paul. Timothée a été appelé à être exemple pour l'église d'Éphèse à travers ce qu'il allait faire. Et je pense que nous aussi, on est tous appelés à vivre en fait cette définition en fait de l'exemplarité. Bien sûr, Christ est notre tête, Christ est la personne qu'on doit suivre. La parole de Dieu est là pour nous le rappeler. Mais Christ a envoyé a fait en sorte que chacun, entre frères et sœurs, nous puissions aussi être des exemples les uns pour les autres. Dans notre vie, comment je vis ma foi chrétienne, comment je vis ma vie de prière, comment je vis ma vie de lecture de la parole, on peut tous être des exemples les uns pour les autres. On peut tous être le Timothée de quelqu'un dans cette église, et on peut tous être aussi, peut-être, en fonction de notre maturité, des Paul. Et il ne faut pas juste se dire, ah, mais c'est lui, ou c'est lui, ou c'est lui qui est un leader, ou qui est amené à nous guider, mais nous sommes tous aussi appelés à être des exemples à travers ça. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis? Voilà. Comment être un exemple? Qu'est-ce que ça signifie être un exemple? Je pense que l'image est assez parlante. On parlait aujourd'hui avec Francis d'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est de dire qu'est-ce qui est. Est-ce que je fais ce que je dis ou pas? C'est ça l'intégrité. Je dis quelque chose, et est-ce que mes actions, par la suite, correspondent à ce que je dis? Bien souvent, dans notre monde, et parfois même dans nos églises, on a le premier cas, où des gens disent « Michael, va faire ça !» Michael, je vous rassure, un pasteur n'est pas du tout comme ça. Mais les gens disent... Et c'est le problème de l'orgueil, en fait. C'est les gens disent « Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Et derrière, moi, je suis là et je tire. Ou pas. Peut-être que moi, des fois, je vous dis ça. Hein. Dites-le moi si c'est moi qui suis à la place là. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas du tout l'exemple que Dieu nous donne. La différence, c'est quoi? Et Jésus-Christ en est l'exemple parfait. Jésus-Christ était là. Vous voyez? Jésus-Christ était à notre niveau. Jésus-Christ était venu homme pour vivre ce que nous avons vécu, pour souffrir ce que nous avons vécu et pour nous montrer la voie aussi. Et ça, c'est l'exemple que Dieu nous a laissé à travers Jésus-Christ, que Paul a laissé, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ, et que nous aussi nous sommes amenés à laisser. Soyons des exemples et soyons des leaders sacrificiels. Soyons prêts à servir là où nous sommes, que ce soit notre église ou partout ailleurs. Ce qui est bien, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que je pense que vous le savez tous, je pense que vous le voyez tous et que vous le ressentez tous, c'est que pour moi, l'exemplarité ou l'intégrité, c'est contagieux. C'est contagieux, c'est quelque chose que quand je vois, je me fais « waouh ». Quand je vois un frère qui aide à l'église, quand je vois un frère qui prie, qui se lève super tôt le matin pour prier, qui donne un temps pour vivre sa relation avec Dieu, quand je vois des frères qui sortent pour évangéliser, quand je vois des frères qui répètent super longtemps pour louer, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que je fais « waouh, mais Seigneur, tu es à l'œuvre. Seigneur, tu es à l'œuvre dans la vie des gens et je le vois. » C'est pas juste quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose qui se matérialise dans la vie des gens. Et ça, c'est contagieux. Quand on voit la puissance de Dieu qui agit dans la vie des frères et sœurs et que les frères et sœurs sont en mouvement pour Dieu, moi, personnellement, ça me touche. Et moi, personnellement, ça me donne envie. De la même manière que la tiédeur d'une église, enfin la tiédeur des gens est contagieux, je regarde, je fais « Ah, bah, il s'en fout de Dieu, en fait. » Bon, c'est peut-être que moi aussi, en fait, je veux m'en foutre, c'est pareil, c'est la normalité. Ça c'est très contagieux aussi, de voir que les gens ne font pas d'efforts, de voir que les gens ne vivent pas vraiment leur relation. Du coup, tu dis « Mais pourquoi est-ce que je devrais le faire ?» Mais si nous sommes des exemples, si nous comprenons ce que Paul nous demande d'être, et que Jésus-Christ nous demande d'être aussi, nous pouvons aussi inverser la situation et être des virus, en fait. D'être des gens d'Ebola ou de Zika. Est-ce qu'on attraperait, en fait, ce serait la passion pour Dieu? Ce serait vraiment cette flamme de se dire « Ouais, mais Seigneur, tu m'appelles à faire des choses et je vais les faire pour toi. » Soyons contagieux, frères et sœurs, dans ce que nous faisons. Maintenant qu'on a vu le but, donc je vous rappelle, on a vu le combat, nous sommes tous appelés à combattre dans le monde où nous vivons. Le but, vivre la grâce, être des exemples et être des leaders sacrificiels. On va voir maintenant les armes que Dieu nous donne. Verset 18, donc le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ok, là on va s'arrêter. Garder, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Comme je vous l'ai dit, ici Paul appelle Timothée à combattre le bon combat. Les prophéties qu'on a vues auparavant, c'est des prophéties qui annonçaient que Timothée avait le don d'enseigner, en fait, avait le don de prendre les responsabilités à l'église d'Éphèse malgré son jeune âge. Et maintenant, Paul lui dit combat en gardant la foi et une bonne conscience. Comment combattre en gardant la foi et une bonne conscience? Voilà. fin de la prédication. C'est ce que Paul dit en fait. Gardez la foi et avoir une bonne conscience. C'est simple. Gardons la foi, ayons une bonne conscience. Mais on va voir exactement en quoi ça consiste. Qu'est-ce que ça veut dire réellement dans nos vies? Tu peux passer, s'il te plaît? Alors, en gros, je pense que dans nos vies, tout ce que nous vivons et tout ce que nous comprenons peut se décomposer en deux choses. Ce que je dois faire, ou ce que je sais, donc ce que je sais qu'il faut que je fasse, et ce que je fais, réellement. Toutes nos décisions, toutes nos actions, tout ce qu'on vit, ça se décline en ces deux choses-là. Ce que je dois faire, ce que je sais, et ce que je fais réellement. La bonne conscience, on l'avait vu la semaine dernière avec Pasteur, la bonne conscience, c'est ça en fait. C'est vraiment ce que Dieu me demande de faire, c'est la parole de Dieu. On peut le voir dans Éphésiens, donc on parle d'armes là, hein. Dans Éphésiens chapitre 6, il y a l'armure du chevalier chrétien, il y a l'armure que tout chrétien se doit d'avoir. On a la cuirasse de là, ouais. On a le casque du, ouais. On a la ceinture de là, ouais. On a les chaussures, oula, le zèle de l'évangile, ouais, merci. Et on a l'épée, esprit, parole. Ok, très bien. Les réponses sont bonnes, heureusement. Les réponses sont bonnes, mais regardez bien exactement ce qu'on a décrit. Il y a une seule chose qui est l'arme qui nous permet de nous battre. C'est l'épée. La seule arme offensive qu'on a, c'est l'épée. Le reste, ça nous permet de nous protéger. C'est comme si on me tapait et je reçois les coups, mais à force de recevoir les coups, on est acculé. On n'avance pas, on fait rien. Et je pense que c'est un peu la situation et l'importance en fait de la parole de Dieu. Si je vous rappelez, hein, c'est Satan notre ennemi, hein, il nous attaque. Hein. Et si j'ai pas la parole, bah ok, j'ai mon casque du salut, j'ai mon bouclier de la foi, mais Satan va m'acculer. Je vais pas pouvoir avancer, je vais pas pouvoir œuvrer pour Dieu. Et c'est pour ça que verset Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc vous aviez bon tous les deux, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça c'est très important, la parole de Dieu et l'esprit qui est conséquent en fait à la parole de Dieu sont super importants. Sans esprit, la parole ne servira à rien. Vous allez lire la Bible comme si c'était un livre, comme si c'était le Seigneur des Anneaux. Vous allez dire, ah ouais, oui, c'est passé ça, il y a eu des guerres, etc. Ah ouais, c'est peut-être philosophique, ça m'apprend des choses. Mais sans l'esprit qui va imprimer en vous la connaissance de la parole, la conviction que ce que dit la parole de Dieu est vrai et est bon pour moi, ça ne servira strictement à rien. De la même manière, si vous avez l'esprit, mais que vous n'avez pas la parole, ça ne servira à rien parce que vous ne vous baserez pas, vos fondements ne seront pas sur la parole de Dieu. L'esprit et la parole sont intimement liés en tant que chrétien. Et c'est ça que Dieu nous appelle à rechercher. Donc ça en fait, si vous voulez, hein, c'est votre épée. Quand vous brandissez votre Bible, quand vous brandissez la parole de Dieu, c'est votre épée pour vous défendre. Regardez Jésus-Christ, tout simplement, l'exemple parfait. Quand Satan l'a tenté dans le désert, comment est-ce qu'il a répondu? Par exemple, quand Jésus-Christ avait faim, comment est-ce qu'il a répondu à Satan? Il a sorti la parole de Dieu. Satan lui a dit, change ces cailloux en pain, tu es le fils de Dieu, tu peux le faire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas essayé de raisonner, il n'a pas essayé de faire quelque chose, il a juste sorti la parole de Dieu. Et il a vaincu Satan. Donc ça, vraiment la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est simple hein, ce que je suis en train de vous dire. Franchement, C'est pas les ondes gravitationnelles qui ont été découvertes il y a quelques jours par les physiciens. Et c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, on connaît. Mais comme je vous dis, il y a une différence entre ce qu'on connaît, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et là, justement, et on va voir, hein, il y a souvent, bien souvent, une différence, en fait, entre ces deux choses-là. Ce que je connais, ce que je dois faire et ce que je sais. Donc la deuxième partie, en fait, c'est ce que je fais. Garder la foi. On a vu combattre le bon combat en gardant la foi et en ayant une bonne conscience. Donc avoir la bonne conscience, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Demander, étudions la parole de Dieu, demandons l'Esprit de nous illuminer. Et qu'est-ce qu'on a à faire aussi? Garder la foi. Bien souvent, on peut voir des chrétiens qui reçoivent peut-être un évangile allégé. Et puis, ouais, je me suis converti. Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. Et j'ai une vie nouvelle. Et quand on regarde leur vie, on voit qu'il n'y a pas forcément de changement, on voit qu'il n'y a pas forcément de fruits, on voit qu'ils font les mêmes choses. Et on se dit, mais est-ce que tu as réellement la foi ou pas? Ça, seul Dieu le sait. Mais Jacques nous dit que notre foi aussi est jugée aux fruits que nous portons. Quand j'ai foi en quelqu'un, quand j'ai foi par exemple en Yada, quand j'ai vraiment foi, mais vraiment vraiment foi en lui, ça veut dire que j'ai confiance en lui. C'est-à-dire que ce qu'il va me dire et ce qu'il a fait pour moi, j'ai confiance. Si je n'ai pas foi en lui, je n'ai pas foi en ce qu'il a fait et je n'ai pas foi en ce qu'il dit aussi. Et quand on regarde, l'obéissance en fait, et quand on garde la foi, quand on est appelé à garder la foi, il y a une notion d'action. Quand je garde la foi, il y a une action qui doit se mettre en place. Et cette action-là, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est vraiment notre foi en action. Notre foi en la parole qui est en action. Beaucoup de gens disent, oui, j'ai foi en Jésus-Christ, j'ai foi qu'il est mort pour mes péchés, j'ai foi que maintenant j'ai la vie éternelle. D'accord, tu as foi en ce que Jésus-Christ a fait. La question, c'est, est-ce que tu as foi aussi en ce que Jésus-Christ a dit? Parce que Jésus-Christ, il n'est pas juste mort sur la croix pour toi, mais il a dit plein de choses dans la Bible. Il a donné des conseils. Il nous a appris comment réfléchir. Il nous a appris comment vivre. Est-ce que tout ça aussi, tu as foi? C'est facile d'avoir foi en ce que Jésus-Christ me sauve, mais est-ce que tu as foi aussi que tout ce que Jésus-Christ a dit pour ta vie, pour comment tu interagis avec les gens, est-ce que tu as foi que tout ce qu'il a dit aussi, c'est vrai? Bien souvent, on dit, ouais, mais en fait, la Bible s'est dépassée. Les conseils que Jésus-Christ donne, c'est pas contemporain à moi. Ça s'applique pas à moi. Donc, je vais pas forcément les mettre en pratique. Mais si tu as foi en ce que Jésus-Christ a fait, tu dois aussi avoir foi en ce que Jésus-Christ a dit sur toi, sur moi, sur nous tous. À partir du moment où tu appliques pas ta foi dans ce qu'il a dit, tu remettrais, c'est comme si je disais que Jésus-Christ est un menteur, en fait. Jésus-Christ m'a donné des conseils, mais non, je te crois pas. Je pense que peut-être tu es un menteur. Dans ce cas-là, comment tu peux croire en cette personne-là qui est morte pour toi, qui a pris tes péchés? Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que c'est totalement binaire, en fait. Soit vous croyez en Jésus-Christ, ce qu'il a fait, son sacrifice, du coup vous croyez aussi dans sa parole, dans toute sa parole, et qu'elle est véritable et qu'elle peut nous aider à transformer. Si tu ne crois pas en ce qu'il a dit, ça veut dire que tu remets aussi en cause ce qu'il a fait. Donc ça, c'est vraiment... La première chose, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est vraiment le reflet, en fait, de la foi qu'on a en Jésus-Christ, en sa parole. Pour prendre un exemple, en fait, c'est comme si vous aviez un boss qui vous aime beaucoup. Votre chef, il vous aime énormément. Et il vous dit, je te donne 100 000 euros de prime, parce que je t'aime bien, parce que je veux le meilleur de toi. Et vous êtes content. Waouh, tu risques 100 000 euros, je vais faire plein de trucs. M'acheter à manger, je vais m'habiller, etc. Enfin bref. Et après, il vous dit, mais comme je t'aime, je te demande aussi un peu de changer ta façon de travailler. Comme je t'aime tellement, j'ai envie que tu sois bien, tu vois. Tu sois optimal dans ce que tu travailles. Par contre, Oula, je m'excite. Par contre, ce que je te demande de faire, c'est indépendant de la prime que je vais te donner. C'est-à-dire que tu changes ou que tu ne changes pas, tu auras ta prime de 100 000 euros. Et là, ce que je te demande, c'est que je t'aime bien, mais je vais quand même te demander un peu de changer. La manière dont tu tapes sur l'ordinateur, la manière dont tu parles, etc. Parce que c'est pour ton bien, je t'aime. Je pense que beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui se diraient, mais Seigneur, enfin, boss, tu me donnes 100 000 euros, mais j'ai pas envie de changer. J'ai les 100 000 euros, c'est sûr, mais j'ai pas envie de changer. Peut-être que tu me dis des choses, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de les faire. J'ai envie de rester tel que je suis, c'est bon. Et c'est vraiment révélateur des pensées, en fait, de beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui. C'est qu'ils veulent accepter la grâce de Dieu, mais ne sont pas prêts à en subir, entre guillemets, les changements que Dieu veut que nous fassions. Les changements dans notre cœur, les changements dans notre vie. Et vous allez me dire, oui, mais Michael, c'est vrai ce que tu dis. Dieu nous appelle aussi à changer ce qui ne va pas, mais c'est pas facile. Dans notre vie, on galère. Notre vie, c'est compliqué. Je veux changer des fois, mais j'arrive pas. Et ça, c'est dans la deuxième partie. Donc, on a vu l'obéissance, et maintenant, on va voir la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est que, on peut voir dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus est très clair. Le chemin que nous allons, par lequel nous allons passer est très étroit. Ça va être très compliqué. Et c'est ce que nous vivons peut-être aussi tous chaque jour en tant que chrétiens. Pourquoi c'est compliqué de lire ma Bible? Pourquoi c'est compliqué de prier, d'avoir cette relation, d'avoir cette connexion avec Dieu? Mais c'est facile. Matthieu, on peut le voir dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Si vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Frères et sœurs, c'est normal si on trouve ça difficile, parce que c'est, comme on l'a vu au départ, c'est notre nature humaine et pécheresse qui est là, et qui nous retient, et qui nous dit ne fais pas, enfin elle vous dit pas ça, mais qui vous empêche en fait d'aller vers les choses célestes et vers les choses que veut Christ. Mais de la même manière qui est décrit dans Matthieu 11, 28, déposons nos fardeaux à Dieu. Reconnaissons, je sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, par rapport à votre lecture de la Bible, par rapport à votre prière, par rapport à l'Esprit qui vous guide dans ce que vous faites, mais je serais tenté de dire, mais c'est pas grave, entre guillemets, n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas grave, parce que la grâce surabonde. Le Seigneur attend simplement que nous venions déposer nos fardeaux à lui, et que nous lui demandions de prendre les nôtres, et de marcher avec lui. Il y a vraiment cette histoire, en fait, et je pense que c'est vraiment même une analogie qui est faite, et que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'histoire, en fait, j'avais une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de décoration chez moi, et c'était ma tante des États-Unis qui me l'avait donnée, et c'était en anglais. Je pense que l'un des premiers mots que j'ai appris en anglais, c'est footprints. Footprints, c'est les empreintes de pas. Et ça relate l'idée de la vie de quelqu'un, en fait, qui, à la fin de sa vie, son chemin, en fait, il voit qu'il y a plein de traces de pas dans le sable. Dans les moments de sa vie où tout allait bien, il voit qu'il y avait quatre traces de pas dans le sable. Donc en gros deux personnes, quoi, si vous avez compris. Et après des moments où il y avait que deux traces de pas dans le sable, donc une personne. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces moments-là où il y avait quatre pas, c'était les moments où tout était style dans sa vie, où c'était la joie, où tout allait bien. Et dans les moments où il y avait que deux pas, c'est dans les moments de difficulté, dans les moments de détresse, dans les moments de tempête. Il arrive devant Dieu et il fait « Mais Seigneur, regarde le trajet que j'ai fait. Pourquoi est-ce que dans les moments où c'était compliqué, dans les moments où je galérais, dans les moments où je pouvais pas, où j'avais pas envie de lire ta parole, dans les moments où j'arrivais pas à te prier, pourquoi dans ces moments-là tu m'as abandonné? Pourquoi dans ces moments-là il n'y avait que deux traces de pas et toi t'étais pas là ?» Dieu l'écoute et Dieu lui dit « Non, mon cher enfant, tu te trompes totalement. Ce n'est pas parce que tu as marché tout seul, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai pris sur mes épaules. Je t'ai pris sur mes épaules et j'ai marché à ta place. C'est pour ça qu'il n'y avait que ces deux pas. Ces deux pas-là, c'était moi. Je t'ai aidé à traverser ces moments difficiles. Et frères et sœurs, c'est vraiment ce qu'on peut voir à travers ce passage en Matthieu, c'est Dieu nous invite à prendre, il veut prendre notre joug, il veut nous prendre sur ses épaules, il veut prendre notre fardeau. Et est-ce qu'on marche avec lui? La question c'est, est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que nous voulons le laisser prendre, nous prendre sur le dos, ou est-ce que nous voulons marcher et faire notre volonté? Dernier point. La persévérance. Donc on a vu, Dieu nous appelle à garder la foi. Donc garder la foi, on l'a vu, c'est une action. Il faut garder. Garder la foi aussi, ça va demander quelque chose où il va y avoir de la résistance, où justement on n'est pas habitué à faire. Et garder, ça a aussi une notion de durée. Et cette durée-là, justement, c'est la persévérance. Dans ce qu'on voit, je pense que Laura on en avait parlé un petit peu là, il y a deux semaines. La persévérance, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on va être face à nos montagnes. Tu avais, psaume 121, si mes souvenirs sont bons, tu avais parlé de ça, des montagnes. Qu'est-ce que vous allez faire, frères et sœurs, quand vous allez faire face à vos montagnes? Est-ce que vous allez dire, waouh, il y a des montagnes, c'est impossible à ce que je gravisse la montagne, c'est impossible. C'est l'Himalaya. C'est impossible. Ou est-ce que vous allez vous dire, waouh, il y a une montagne, ça se trouve, je vais pouvoir la grimper. Je vais pouvoir la grimper et voir ce qu'il y a après. Ça, c'est deux notions totalement différentes. Et c'est ça qu'on est, c'est les deux façons de voir lorsque nous faisons face à nos montagnes. Est-ce que vous voyez les choses comme des fatalités ou est-ce que vous voyez les choses comme des opportunités? Est-ce que vous voyez, waouh, la montagne est trop grande, jamais je pourrais faire quelque chose? Ou est-ce que vous vous dites, la montagne est là, peut-être que je vais la prendre et je verrai les choses différemment. Il y a David, pour moi, est un petit peu incarne un petit peu cette réaction, en fait, face aux épreuves, surtout. J'imagine, en fait, quand il était face à Goliath. Il est face à une montagne, il est face à quelqu'un qui est super grand, le plus puissant des Philistins. Lui, c'est un petit enfant. Qu'est-ce qu'il va faire face à ça? Qu'est-ce qu'il va faire contre cette montagne, Goliath? Comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Et je m'imagine, il avait deux possibilités. Soit il se dit, Goliath est très grand, trop grand, trop fort, jamais je pourrais le vaincre. Ou il aurait pu se dire aussi, David est très grand, très fort, jamais je pourrais le rater quand je vais lancer mon truc. Vous voyez? Est-ce que tu dis il est trop grand, trop fort? C'est impossible. Ou est-ce que tu dis il est trop grand, trop fort? Justement, je vais pouvoir y arriver grâce à Dieu. Et je pense que vraiment la persévérance, c'est ça, c'est Dieu nous appelle tous, frères et sœurs, comme on l'a vu, à sortir peut-être de notre zone de confort en tant que chrétien. Et pourquoi est-ce que ça fait mal quand on sort de zone de confort? Parce que c'est au moment où on n'a plus de contrôle. Quand on sort de nos zones de confort, nous n'avons plus de contrôle sur ce que nous faisons. On a discuté encore ce matin, merci Francis. Mais on aime bien faire des choses dans lesquelles on excelle. Ça, c'est tranquille parce que je sais, moi, je sais faire. Mais Dieu nous appelle dans sa parole à faire des choses auxquelles nous n'avons aucun contrôle, dans lesquelles nous n'avons aucune vision. Et là, à ce moment-là, ce ne sera pas moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va faire. Et Dieu a envie aussi que nous ayons foi en persévérant, c'est-à-dire en disant que, ok Dieu, tu me demandes de faire ça, moi, je suis là au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment je vais faire parce qu'avec mes propres forces, c'est impossible. Mais je vais te faire confiance parce que je sais ce qui est bon à faire. Je sais que c'est ça que tu m'appelles à faire. L'exemple parfait, je pense, de persévérance dans la Bible, à part Jésus-Christ, qui est Dieu, l'exemple parfait de persévérance, pour moi, c'est Paul. Je vous invite à ouvrir avec moi, on va terminer par ça, 2 Corinthiens chapitre 11. On va regarder à partir du verset 24. De Corinthiens chapitre 11 verset 24, je lis « 5 fois j'ai reçu des juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, une fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. L'image... Ouais, donc je vais m'arrêter là, verset 30. Donc là, je pense que un mec plus persévérant que Paul, après tout ce qu'il a vécu, c'est impossible. Il est passé près de la mort au moins 5 fois. Il a vécu la trahison de certains frères, qui se disaient ses frères. Et qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il a continué la mission que Dieu lui a donnée, il a persévéré. De Corinthiens chapitre 12, à la suite de ce long tirade, de Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, « Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Ici, l'apôtre Paul nous donne la solution. Il l'a vécu lui-même. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je me plais dans ma faiblesse. Je me plais dans ces situations parce que je sais que ces situations-là vont m'appeler à regarder à Dieu. Vont m'appeler à puiser la source de mon combat dans la grâce de Dieu. Pour prendre un exemple de ma vie, on va dire, là, je suis devant vous et je parle. Le fait de s'exprimer en public n'a jamais été mon point fort. Ma première expérience de parler en public, d'oraison, bref, c'était quand j'étais à l'école du dimanche au 13e. Mali avait demandé, Mali, notre monitrice d'école du dimanche, nous avait demandé « Qui est-ce qui veut parler de l'école du dimanche ?» Au culte. Le culte sinophone. Donc en gros, 120, 130, enfin plein de personnes. Moi, je voulais pas. Mais personne ne voulait. Et je me suis dit « Oh, ça se fait pas, et tout Mali, enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un. » Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Quand on reprend ça, qu'est-ce que je dois faire? Ma conscience me disait, vas-y, Michael, rends-lui service. Elle en galère, entre guillemets, rends-lui service. Le problème, c'est que quand je suis arrivé et que j'ai commencé à parler, j'étais comme ça, ils étaient tous là. Et je les regardais. Et je ne pouvais pas sortir un seul mot. J'étais pétrifié. Mais vraiment pétrifié. Je ne pouvais rien dire, rien faire. Mali a vu ma galère. Elle est venue et elle a commencé à me regarder dans les yeux et à changer ce moment où je devais témoigner en un moment où, en fait, c'était juste un dialogue. Et donc, mon attention n'était plus sur le public, mais mon attention était sur la personne que je connais. Et du coup, j'ai commencé à sortir des mots. Bon, je sais plus ce que j'ai dit, hein, mais j'ai commencé à sortir des mots. Et je pense que c'était pas... Là, vraiment, c'est quelque chose... Et même si je suis là aujourd'hui, hein, c'est vraiment quelque chose où je sors de ma zone de confort, en fait. Je l'avais dit à Clément tout à l'heure, où je disais, j'ai accepté, quand tu m'as demandé de prêcher, j'ai accepté. Mais une fois que j'ai accepté, je me suis dit, ouah, purée, en fait, est-ce que j'ai bien fait d'accepter? J'ai douté. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quand je me suis remis à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais tu me donnes cette occasion. J'ai pas envie de voir ça comme une montagne. Au contraire, si je vois ça comme une montagne, mais justement, je vais pouvoir monter et me rapprocher de toi à travers ce chemin que je vais faire avec toi. Et je pense que Dieu aussi a, dans chacune de nos vies aussi, il a des appels pour chacun d'entre nous. Il y a des montagnes aussi dans lesquelles nous devons faire face. Mais acceptons de les gravir avec Dieu. Acceptons de lui remettre toutes nos craintes, tous nos soucis. Et il pourra nous permettre de gravir ces montagnes avec lui. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, j'ai pas révolutionné la théologie. On a vu qu'on était dans une position de combat, que la parole de Dieu était excessivement importante, et que surtout l'application de la parole de Dieu était la plus importante. C'est comme si connaître la parole de Dieu sans l'appliquer, c'est comme si, en fait, oh, j'ai l'épée, mais j'ai pas appris à comment combattre. J'ai une épée, et je l'ai, voilà, mais je sais pas quoi faire. Et je sais pas quel coup donner. Qu'est-ce que je dois faire? J'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce que je l'ai pas vécu, parce que je l'ai pas appliqué, parce que j'ai pas obéi, parce que je comprends pas quelle est l'importance de la parole de Dieu pour ma vie. Si je comprends à quel point la parole est importante pour moi, si je sais comment l'utiliser dans ma vie, alors cette parole aura une puissance. Alors cette parole pourra être mon guide. Mais sinon, ça servira strictement à rien. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, frères et sœurs, dans votre relation avec Christ? Peut-être que des personnes ne le connaissent pas encore. Comme on l'a vu, Paul était blasphémateur, était menteur, était persécuteur. Mais la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu aujourd'hui vous appelle aussi, si vous ne connaissez pas encore Christ, à revenir vers lui, à revenir vers le Père, à revenir vers celui qui vous donnera la vie éternelle. Peut-être que vous connaissez déjà Christ, mais vous dites, la parole de Dieu, en fait, c'est pas pour moi. La parole de Dieu, ça me sert à rien. La parole de Dieu, je sens pas le besoin de lire cette parole. Rappelez-vous que c'est la seule arme que Dieu nous donne. Sa parole est excessivement importante et apprenons à l'utiliser. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous posez des questions et vous dites, je suis face à une montagne, je sais pas quoi faire. J'ai perdu espoir. Par moi-même, j'ai plus aucune force, plus aucune possibilité. Revenez au pied du salut, revenez au pied de la croix et demandez à Dieu de vous remplir. Demandez à Dieu de prendre le fardeau pour vous. Je vous invite à passer un moment dans le recueillement. Pendant une minute, pour que vraiment vous puissiez à la suite de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et en face de Dieu vous dire où est-ce que j'en suis au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'ai compris l'importance de la parole, est-ce que j'ai du mal à appliquer la parole, ou est-ce qu'il y a encore des montagnes dans ma vie où j'ai pas encore laissé le contrôle à Dieu. Examinons-nous, examinez-vous, et je vais terminer par une prière. Ouais, Seigneur, tu as entendu le cœur et les prières de mes frères et sœurs. Père, on veut te remercier parce que ta parole est vivante. Ta parole est d'actualité dans nos vies et ta parole est vérité pour nous guider. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne cette conviction que sans cette épée, nous ne pouvons rien faire et nous sommes perdus. Sans le Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous permet de comprendre, nous allons avancer sans but dans cette vie. Et Père, je te demande vraiment de nous apprendre, Seigneur, à persévérer. Nous livrons tous des combats chaque jour, Seigneur, par rapport à notre péché, par rapport à nos situations, par rapport à notre vie. Mais nous savons que la victoire est en toi. Nous savons qu'à la fin, Seigneur, tu es victorieux. Et nous voulons nous appuyer sur tes promesses pour marcher avec toi, pour combattre le bon combat, Seigneur, et puiser vraiment dans ta grâce, Seigneur, pour avancer. Père, je te demande vraiment de bénir mes frères et sœurs et de me bénir aussi, Seigneur, que vraiment nous soyons des auditeurs, Seigneur, et des disciples qui soient fidèles et obéissants dans ta parole, Seigneur. Je te prie ainsi de ton Fils Jésus-Christ. Amen.